Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Northvolt, c'est un sujet qui suscite beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup d'adhésion. Beaucoup de Québécois qui sont d'accord, notamment en Montérégie. Les gens sont d'accord. On aurait préféré qu'il y ait un BAP, mais il y a quand même un appui pour le projet. Et hier, on a appris que le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a admis que le gouvernement du Québec avait fait une sorte d'accommodement raisonnable avec Northvolt en lui permettant, disons, des petites entorses aux règles pour pouvoir éviter le BAP, ce qu'on appelle le Bureau d'audience publique en environnement, qui aurait pris un an et demi, et le géant suédois a bien averti le gouvernement en amont des négociations. Si vous nous soumettez à un processus réglementaire qui va durer un an et demi, 18 mois, on ne viendra pas au Québec. Yves Lessard et le maire de Saint-Basile-le-Grand vont faire le point sur la saga de Northvolt avec lui. Monsieur Lessard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, peut-être, parlez-moi un peu de vos interactions avec Northvolt. Comment vous qualifieriez, disons, la nouvelle présence de Northvolt là, sur votre territoire?
Ben, c'est une interaction d'ouverture, je veux dire, c'est des gens qui ouvrent des livres, qui un échange franc, puis à date, je veux dire, si on avait eu le même échange avec le ministère de l'Environnement, on n'aurait pas eu la vertange d'intervention qu'on a eue là.
OK, donnez-moi un exemple de transparence dont Northvolt a fait preuve avec vous, là, qui êtes le maire de Saint-Basile-le-Grand. À quelle sorte de questions ils vous ont répondu, disons, qui vous ont surpris par leur transparence?
Bon, d'abord, ils sont venus nous rencontrer avec toute une équipe pour expliquer le projet comme tel. Dès le mois d'avril, moi, qu'on se rend en Suède pour pouvoir prendre connaissance effectivement du projet qu'il y avait là-bas. Moi, j'avais souhaité attendre plus tard pour avoir, bien sûr, une meilleure connaissance pour poser les questions les plus pertinentes possibles et rencontrer les personnes appropriées pour pouvoir nous donner un éclairage indépendant de notre rôle comme tel. C'est ce que nous avons fait. C'est seulement qu'en septembre, nous sommes allés. Et là-bas, on a rencontré, bien sûr, la mairesse avec la direction générale, bien sûr, de la ville, les citoyens de la ville de Certifio, et puis aussi les travailleurs de l'usine. Et puis, bien sûr, on a pu faire un constat là sur place de la façon dont les opérations se faisaient là-bas. Alors, à cet égard-là, je veux dire, on pouvait nous-mêmes, à la lumière de nos questions, pouvoir faire les vérifications sur place là pour avoir être rassurés par rapport au projet.
Qui a payé le voyage?
C'est la municipalité.
OK, donc vous avez pu poser toutes les questions que vous vouliez là à qui vous vouliez quand vous êtes allé en Suède.
Oui, oui, oui. On a fait ça. Là, on a été là-bas une semaine complète. Alors, les deux municipalités, nous étions les maires et puis notre direction générale à chacun et nos responsables, le directeur du service d'urbanisme et aussi deux conseillers municipaux pour Saint-Basile, la personne responsable pour le dossier de l'environnement, un autre responsable en ce qui concerne l'urbanisme au niveau politique. Donc, nous avons une représentation tant politique au niveau du conseil qu'administratif pour chacune de nos villes.
OK. Qu'est-ce que vous pensez de l'opposition de beaucoup de Québécois, et je dis pas qu'ils sont majoritaires, au projet d'usine de Northvolt sur votre territoire?
Les questions qui sont posées sont des plus pertinentes. Dès le début, je veux dire, on voyait qu'il y avait quelque chose là où il y avait une hésitation pour le ministère de l'Environnement de répondre aux questions, parce que les réponses, il les avait. Donc, nous, on est intervenus plusieurs fois. D'ailleurs, c'est en novembre que le ministère, les différents ministères devaient venir rencontrer nos citoyens pour pouvoir répondre à leurs questions. Deux reprises, ils ont reporté, ils ont annulé tout simplement sans reporter ces rencontres-là en novembre. Et le 19 janvier cette année, alors, on a écrit au ministre pour dire, écoutez, là, ça va faire, là. Il va falloir
Je m'excuse de vous interrompre, M. Lessard. À quel ministre dans le dossier? À M. Charest, à l'Environnement, M. Charest?
M. Charest, avec copie, bien sûr, au ministre Fitzgibbon, et puis à nos deux députés ministres ici, parce que nous, c'est M. Jolin Barrette et M. Robert, qui sont nos députés ministres, alors qu'on avait rencontré d'ailleurs en octobre. Sur le dossier. Alors, nous avons dit à M. Charette le 19 janvier, écoutez, il va falloir se rencontrer parce que ça va pas. Vous avez les réponses et puis vous les donnez pas aux gens qui posent des questions les plus pertinentes. Alors, on a fait une rencontre avec le ministre Charette le 29 janvier pour lui dire, il faut que vos gens viennent rencontrer nos citoyens et puis éclaircir la situation parce que l'idée d'avoir un BAP veut dire c'est quelque chose qui est légitime. Alors, pourquoi est-ce qu'on contourne toujours la question? Alors, voilà. Et ça a effectivement provoqué la rencontre. Donc, les trois ministères concernés, particulièrement, bien sûr, l'environnement, le transport et le ministère de l'économie et de l'innovation. Alors, les fonctionnaires sont venus rencontrer nos citoyens, tant à McMasterville que chez nous, alors le 28 et le 29 février. Et puis, ça s'est bien passé. Mais ce qu'on a pu constater à ce moment-là, c'est qu'ils pouvaient donner des réponses en fonction de l'état actuel du dossier, sans avoir des réponses pour le développement futur du dossier.
Le fait que le gouvernement n'a pas voulu que Northvolt se soumette à un BAP, est-ce que ça vous a surpris et est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
C'est-à-dire, on pourrait être d'accord à partir du moment où on nous donne les vraies raisons pour lesquelles. Alors, les circonstances, si on nous avait dit dès le début, écoutez, il n'y en aura pas pour des impératifs économiques, parce que sinon, notre vote s'établirait pas chez nous. Je veux dire, je pense que les gens ne sont pas idiots, là, ils auraient compris, même s'il n'y aurait pas partagé, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'auraient pas souhaité avoir un BAP et tout ça. Mais dès le début, si on nous avait dit ça, et en plus, nous faire connaître comment maintenant on était pour gérer l'application des obligations en ce qui concerne l'environnement. Alors nous, on a pu le découvrir au fur et à mesure que les certificats d'autorisation, par exemple, nous ont été émis. C'est-à-dire on nous a fait parvenir les certificats d'autorisation en octobre pour dire, voici, il va y avoir tant d'arbres qui vont être coupés, il faut aussi remblayer telle surface, etc. Parce que la municipalité, elle, se doit de donner les permis. Donc, là-dessus, pour ces deux permis-là, nous avons travaillé plus de 5 mois, là, quasiment 4 mois et demi, pour pouvoir étudier effectivement ces demandes-là et faire en sorte que les règles soient appliquées.
OK. Dernière question. Avez-vous une préoccupation environnementale, que ce soit des rejets dans la rivière, dans l'air, auxquels, disons, Northvolt ou l'environnement, le ministère de l'Environnement, n'aurait pas répondu?
Si ça se passe tel qu'on a constaté, nous, en Suède, je veux dire, je suis pas trop inquiet. Maintenant, on est sur un nouveau projet qui doit être un modèle similaire à celui en Suède. En Suède, veut dire la question du bruit, par exemple, des émanations toxiques, quoi que ce soit, ça n'existe pas là. On a pu faire le tour, constater, etc., etc. Le traitement de l'eau, par exemple, la rivière, c'est ils vont récupérer de l'eau pour pouvoir refroidir les procédés, mais c'est une eau qui ne retournera pas à la rivière immédiatement, qui va être par la suite refroidie parce que c'est une eau qui va venir refroidir les procédés, donc par la suite, ça le va chauffer. Mais avant d'être retournée à la rivière, c'est un outil qui va être analysé pour être sûr qu'elle est, de même ordre que celle qu'on a puisée.
Merci d'avoir été avec nous, M. Lessard. Je souhaite une bonne journée.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
En début d'après-midi, il y a une centaine de manifestants qui sont réunis devant un édifice neuf, un édifice à logement du quartier Hochelaga-Maisonneuve où des appartements sont loués sur Airbnb. Pourtant, depuis un an, semble-t-il, les hébergements touristiques de type Airbnb sont interdits dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On sait que la prolifération des Airbnb, ben, c'est dénoncé comme aggravant la crise d'accès au logement. On en parle avec le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
OK, d'abord, parlez-moi de l'immeuble où il y a eu une manifestation aujourd'hui.
Ben, l'immeuble en tant que tel, c'est difficile d'en parler parce que les propriétaires nous poursuivent. Ils poursuivent l'arrondissement parce qu'ils veulent annuler notre règlement contre les Airbnb commerciaux. Donc, je vais quand même faire attention. Il y a quand même quelques éléments publics qu'on peut dire. Nous, on a eu des dénonciations comme quoi qu'il y aurait des activités de Airbnb illégales dans ce bâtiment-là et on a passé l'information à Revenu Québec. Parce que malheureusement, avec la loi québécoise, eh bien, ce qu'on sait, c'est que on a délégué aux municipalités les responsabilités du zonage concernant Airbnb, mais les pouvoirs d'inspection, de vérification financière sont demeurés à Revenu Québec. Donc là, où est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz, là, c'est la présence d'inspecteurs de Revenu Québec sur le terrain.
Mais reculons un peu la cassette. On va y aller avec les faits. Là. Cet immeuble-là, c'est bel et bien un immeuble récemment construit?
Oui, en effet.
OK. Il y a combien d'unités de logement dedans?
Il y en a une vingtaine.
OK.
Et il y a eu 4 demandes pour des Airbnb. Mais c'est là que le bas blesse, puis c'est là que c'est un peu confus. Ce qui arrive, c'est que selon la loi québécoise, il est permis partout au Québec de faire du Airbnb dans sa résidence principale.
Oui.
C'est possible pour les municipalités de bannir l'Airbnb commercial, ce qu'on a fait. Mais lorsqu'un citoyen vient demander son numéro pour faire du Airbnb, et qu'il déclare sur l'honneur avec des preuves à l'appui que le loyer Airbnb est sa résidence principale, les municipalités, on n'a pas le pouvoir de Revenu Québec pour savoir où est sa vraie résidence principale. Donc, on peut avoir des gens qui habitent les Laurentides, qui habitent Québec, qui habitent l'Estrie, mais nous, à l'arrondissement, on ne peut pas savoir elle est où cette résidence principale-là. Et c'est une faille de la loi de Québec que les municipalités, dont l'Union des municipalités du Québec...
Monsieur le maire, je vais vous arrêter. Monsieur le maire, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais la communication coupe aux deux mots là, depuis quelques instants. On va essayer de vous rappeler. Bon, on va reprendre où on a laissé. Je récapitule. Il y a une centaine de manifestants aujourd'hui qui sont réunis devant un immeuble à logement tout neuf de Hochelaga-Maisonneuve. On dénonce le fait qu'il y a des hébergements touristiques de type Airbnb dans ce nouvel édifice. Le maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, lui-même était pris à partie pendant la manifestation. On accuse son arrondissement d'être de mèche avec les gens qui veulent faire du Airbnb. Il est de retour, la ligne n'était pas très bonne. Monsieur le maire, bonjour.
Rebonjour, désolé pour tantôt.
Pas de trouble. OK, là, vous avez été pris à partie dans la manif, on vous accuse de copinage. Est-ce que ça vient de cette confusion que vous me décriviez entre les responsabilités de Québec et celles que Québec donne aux arrondissements?
Mais c'est vrai que la loi est complexe parce qu'on a donné la responsabilité du zonage aux municipalités et les pouvoirs d'enquête sont restés à Revenu Québec. Cela dit, c'est certain qu'on pourrait avoir des meilleures relations avec le comité localement, mais les relations sont difficiles. Là. Pas plus tard qu'hier, ils n'ont pas participé participé. Ils n'ont pas voulu participer à une réunion où est-ce qu'on pouvait comme aborder des éléments techniques sur notre réglementation. Donc, on les a réinvités dans deux semaines pour essayer de mieux expliquer comment fonctionne le processus.
De quel groupe vous parlez?
Entraide logement et comité bail.
OK. Donc, un comité logement, là.
Oui, c'est ça. Ça fait deux fois dans les derniers mois qu'ils ne se présentent pas à des réunions qu'on convient. Donc, mais on partage le même objectif. Du Airbnb commercial dans notre quartier, là, pendant la crise du logement, on n'en veut pas. Puis c'est inquiétant parce que quand on regarde le site web de Inside Airbnb, on peut avoir jusqu'à 70 % des adresses sur Airbnb qui appartiennent à la même personne. Donc on a clairement des contrevenants et on n'a pas les outils présentement pour leur faire respecter la loi.
Est-ce que vous savez combien d'Airbnb dans votre arrondissement ont été fermés à la suite d'enquêtes?
À ma connaissance, c'est aucun.
OK, donc il y a un règlement, mais on dirait qu'il ne sert à rien.
D'où l'importance d'avoir davantage d'inspecteurs chez Revenu Québec. Ça, c'est quelque chose là que, en commission parlementaire, en mai dernier, l'Union des municipalités du Québec et la Ville de Montréal ont écrit ça noir sur blanc dans leurs recommandations. Puisque Revenu Québec veut garder les pouvoirs d'inspection, Revenu Québec doit avoir des inspecteurs sur le terrain pour répondre au zonage illégal. Puis dans le contexte où est-ce que le gouvernement cherche des nouvelles sources de revenus, là, un inspecteur en Airbnb, là, ça se paye très rapidement parce que les premières amendes partent à 5 000 puis ça peut aller dans les 6 chiffres. Là. Donc, ça vaut la peine d'en embaucher.
Donc, si je comprends, je veux résumer, je vais essayer de comprendre. Là, OK? Québec fait le règlement. Québec vous dit aux villes de donner ou pas les permis, c'est ça? Mais c'est pas vous qui enquêtez, c'est Québec qui enquête. Puis, si je comprends bien, dans votre arrondissement où il y a des Airbnb, on n'a pas fermé depuis l'entrée en vigueur de la loi.
Pas selon ma connaissance. Une autre revendication qu'on a, c'est d'avoir davantage d'informations des opérations d'enquête des inspecteurs de Revenu Québec. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est quand on reçoit une plainte, on nomme l'enjeu à Revenu Québec. Donc, sur le bâtiment au coin de Chambly, Ontario, là, on a dénoncé la situation à Revenu Québec le 7 décembre, puis on a eu différentes discussions après ça, administrativement et politiquement, pour leur dire que ça urge. Mais après ça, dans leur application de réglementation, moi, c'est de la poutine interne de leur côté, puis on n'a pas d'informations.
OK. Là, vous me disiez que ces gens-là vous poursuivent, là, c'est... les gestionnaires propriétaires de l'immeuble là, devant lequel il y a eu une manif, ça s'appelle Strawberry Stays, séjour de la fraise, qu'importe ce que ça veut dire, là. Ils vous poursuivent pourquoi?
Ils veulent faire tout simplement annuler notre règlement contre le Airbnb commerciaux. Aussi simple que ça.
OK, ils voudraient pouvoir faire du Airbnb comme ils le souhaitent.
Exactement, okay. Mais c'est un pouvoir que la loi du Québec a délégué aux municipalités depuis le printemps dernier. Puis nous, on va l'appliquer à sa pleine puissance là. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on est allé le plus loin possible que la loi québécoise nous permet pour restreindre le Airbnb sur notre territoire.
OK, c'est qui ces gens-là de Strawberry Stays?
On va être en cours. Je veux qu'on gagne notre cause, donc je veux pas affaiblir notre cause en donnant des détails, Monsieur Lagacé. Je suis désolé.
Juste me donner des détails factuels, là, je veux dire. C'est pas votre opinion. Là. On peut pas vous reprocher d'avoir dit qui est derrière cette raison sociale. Là.
Mais c'est des gens qui sont propriétaires de quelques bâtiments et qui avaient comme objectif de faire du Airbnb à place d'offrir des logements aux gens de Hochelaga-Maisonneuve qui en ont grandement besoin.
OK. Trouvez-vous que Québec a fait un bon règlement sur le contrôle des Airbnb?
On était content que Québec agisse. Et c'est pertinent que les municipalités puissent déterminer où est-ce qu'on veut du Airbnb commercial ou pas. Ça, c'est le bon bout. Mais la faille qui a été nommée déjà là au mois de mai dernier sur le pouvoir d'enquête, ça, c'est un problème. Si là, Revenu Québec avait agi dans les jours qui ont suivi la dénonciation le 7 décembre, on n'en serait pas rendu là trois mois plus tard, là.
Très bien. Ben écoutez, on va suivre ça avec intérêt. Je pense que Airbnb, c'est un service intéressant, mais disons qu'on peut pas nier que ça contribue beaucoup là, à la crise du logement. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, M. Lagacé.
C'était Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement. Merci, Hochelaga-Maisonneuve. va faire le point sur ce qui se passe en DPJ. On sait, il y a beaucoup d'histoires là qui nous arrivent par le biais du journal La Presse. D'abord, cette histoire qui nous parvenait de Laval. Il y a un centre de réadaptation qu'on appelle le centre jeunesse Cartier à Laval. Et dans cet établissement, quand on veut mettre en retrait certains enfants, je rappelle que ce sont des mineurs qui sont pris en charge par la DPJ, ben on en met parfois dans une unité de retrait qui a tout d'une unité carcérale. Il y a même des portes qu'on pourrait deviner être en prison. Ça a causé un scandale, ça a provoqué deux enquêtes qui ont été annoncées hier. Et aujourd'hui, La Presse nous apprenait que il y a 20% de ces immeubles de la DPJ là qui sont vétustes, qui ne devraient même pas accueillir des êtres humains, jeunes ou pas. Brigitte Garceau est députée de Robert Baldwin pour le Parti libéral. Elle est porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse et aussi avocate en famille. On va faire le point avec elle. Madame Garceau, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, avez-vous été surprise de lire La Presse ce matin? Le 20% des immeubles qui relèvent de la DPJ, là, toutes sortes de foyers qui sont vétustes.
Pas vraiment surprise, non. C'est sûr et certain que tout cet aspect-là, en commission, Laurent et tout ça, il y avait eu des discussions. Et on avait même une des recommandations, c'était une mise en œuvre là, d'un chantier d'État généraux, donc pour faire vraiment là une révision de toutes les installations parce qu'il y a des grandes rénovations à faire et on le voit comme le Mont-Saint-Antoine, là, c'est aberrant.
Ben c'est ça. Le Mont-Saint-Antoine, là, c'est un centre de réadaptation dans l'est de Montréal. Il y a des bâches, il y a des champignons dans les murs, il y a des infiltrations d'eau. Je veux dire, je suis pas sûr que je laisserais mon poisson rouge habiter là.
Il y a personne qui devrait habiter là, M. Lagacé. C'est ça l'enjeu, c'est ça le problème. On devrait, à un moment donné, là, faut faire des choses. Il y a des urgences. Et c'est ça, on le voit. On le constate qu'il y a un manque de sentiment d'urgence d'agir pour protéger nos enfants et de leur donner quand même des vies, des lieux d'habitation convenables, raisonnables. On est loin du raisonnable en ce moment.
Madame Garceau, vous dites que vous ne sentez pas de sentiment d'urgence au gouvernement. Donnez-moi des exemples de ce qui vous fait dire ça.
Bien là, en ce moment, c'est sûr et certain que on a, à titre d'exemple, tout ce qui se passe avec les mères qui sont en train de perdre la garde de leurs enfants parce que on a des intervenants, des intervenantes, malheureusement, qui n'ont pas la formation adéquate en violence conjugale, sont en train de faire des recommandations au détriment des mères, mais aussi des enfants. C'est les enfants qui subissent les conséquences et des enfants... C'est les pères violents qui ont la garde de ces enfants-là. Et donc, moi, j'avais demandé au ministre de déclencher une enquête, d'agir, et on n'a fait absolument rien. Et la directrice nationale, Mme Lemay, non plus.
OK.
Et elle peut agir. Elle peut agir. Elle peut faire quelque chose. Elle peut faire une demande de reviser tous ces dossiers.
Il y a un projet de loi qui est à l'étude, là, et c'est une recommandation de la commission de Régine Laurent, pour la création d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Ce serait une sorte d'ombudsman des enfants, DPJ ou pas. Ça suit son cours à Québec. Nancy Audet, qui est marraine de la fondation de la DPJ, était ici pour nous en parler. Et elle a un problème avec la définition du poste, les pouvoirs du poste de commissaire au bien-être et droits des enfants. Elle dit que ce poste-là n'aura pas assez de pouvoir. Vous, Mme Garceau, vous suivez les travaux de la commission, vous posez des questions au ministre Carman. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de Nancy Audet?
Absolument. Absolument d'accord et même qu'est-ce que le gouvernement a fait que je trouve je peux pas comprendre la logique qu'on est en train de maintenir un statu quo qui est en place qui est dysfonctionnel. Ça ne fonctionne pas. On n'est pas en train de protéger nos enfants dans certaines instances comme les unités de retrait. Où on est en train de mettre des enfants qui sont tannants là dans des cellules physiquement, à un moment donné, c'est aberrant, il faut faire quelque chose.
Est-ce que...
Et donc là, en ce moment, on a un projet de loi où on n'a pas intégré toutes les recommandations de la commission Laurent concernant les pouvoirs et les responsabilités, et surtout la recommandation qui était vraiment au cœur des responsabilités et des pouvoirs de ce commissaire. Et ça, M. Lagacé, c'est fondamental. Et ça, c'est le transfert de tous les pouvoirs et responsabilités de la CDPDJ avec le budget au commissaire.
Pourquoi est-ce que le gouvernement, vous pensez, est réticent à faire ça, à donner les pleins pouvoirs à ce ou cette future commissaire au bien-être et droits des enfants?
On dirait qu'on est en mode, et ça, ça fait des années, on est dans un mode d'autoprotection au sein de notre protection de la jeunesse, au sein de notre système.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
On est en train de protéger le système, la structure, au détriment des droits des enfants. Et nous avons besoin d'un commissaire, de la création d'une institution complètement indépendante qui va être dédiée à 100% à la promotion et la protection des droits des enfants. Et ça, c'est aussi de porter, de faire des enquêtes.
OK. Madame Garceau, donnez-moi un exemple très simple de ce que le ou la commissaire au bien-être et droits des enfants ne pourra pas faire si on lui donne les pouvoirs qui sont uniquement les pouvoirs qui sont prévus dans le projet de loi actuel.
Elle ne pourra rien faire concernant la violation des droits des enfants liée à la protection de la loi sur la protection de la jeunesse, la loi sur la protection de la jeunesse. Ça va être encore la CDPDJ. Donc, pas pouvoir d'enquête, rien.
OK, mais expliquez-moi quelque chose. Si la Commission des droits de la personne et de la jeunesse peut le faire, c'est quoi le problème?
Peut le faire. Là, en ce moment, ils ne font pas. Il est là le problème. Ils ont décidé, à leur propre gré, de vraiment, si je peux dire, minimiser ou restreindre leurs responsabilités et leurs fonctions, ou on va intervenir seulement lorsqu'il y a des causes de lésions de droits systémiques. Et donc là, on le sait, puis on les a entendus, des avocates en commission parlementaire, Mme Audet et d'autres, où les gens appellent la CDPDJ pour intervenir. La CDPDJ reçoit des avocats à chaque fois qu'il y a une cause de lésion de droit, on leur notifie, on signifie les procédures, ils n'interviennent pas.
Merci.
Ça, c'est pas une commission qui est là pour défendre les droits de nos enfants.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques face à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse sur, disons, ce qui est perçu comme une non-intervention dans les dossiers de DPJ. Merci d'avoir été avec nous, Madame la députée.
Plaisir.
Au revoir.
Merci C'était beaucoup, au revoir.
Brigitte Garceau, députée de Robert Baldwin pour le Parti libéral.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Jour 152 de la guerre entre Israël et le Hamas, on va faire le point avec Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste aussi du Moyen-Orient. Professeur Junot, bonjour.
Bonjour.
D'abord, faisons le point sur ce qui se passe à Gaza. On voit des images absolument insupportables ces dernières heures, ces derniers jours, des enfants malnutris au bord de la mort. Écoutez, je suis étonné de voir à quel point Israël se fiche complètement des perceptions dans cette guerre à Gaza.
Ah ben ça, pour le moment, Israël demeure complètement je ne sais pas quel mot utiliser, mais concentré sur l'objectif de vaincre le Hamas militairement. C'est l'objectif du gouvernement, mais c'est un objectif qui est soutenu par une bonne majorité au sein de la population. Et comme vous dites, les images qu'on voit, la catastrophe humanitaire qui ne fait que commencer, là, ça va s'empirer dans les prochaines semaines, les prochains mois, la famine, les maladies, l'absence d'infrastructures, les hôpitaux, les égouts, tout ça qui a été détruit. Pour le moment, du côté d'Israël, c'est pas un facteur qui pèse lourd dans la balance. Puis la pression internationale qui monte réussit pas à changer le calcul du côté d'Israël.
Bon, il y a cet objectif-là là qui a été dit là de mille façons par le gouvernement israélien. On veut anéantir le Hamas. Mais il y a aussi des voix dans l'État d'Israël qui disent, savez-vous quoi? On va annexer Gaza, on va retourner à Gaza, on va aller vivre à Gaza. Est-ce que vous croyez à ce scénario qu'au terme de la guerre, Gaza va être annexé à Israël?
C'est difficile de répondre à cette question-là. J'y crois pas, mais disons que je l'exclurais pas complètement. Mais là où c'est plus important, au lieu de poser la question est-ce que ça va arriver, oui ou non, je pense pas que ça va arriver, c'est plus de voir ça comme un obstacle majeur, ces pressions-là domestiques de l'extrême droite israélienne qui sont très fortes, ça va être un obstacle majeur pour les efforts de reconstruction à Gaza, pour les efforts éventuels de négociation d'une solution, peut-être la solution à deux États, peut-être d'autres choses. Il y aura énormément d'opposition du côté d'Israël, y compris au sein de la coalition gouvernementale, donc la coalition qui inclut des partis d'extrême droite, où il va y avoir non seulement une opposition à une solution à deux États, une opposition féroce, forte, mais un obstacle à tout effort de normalisation, de stabilisation. Alors, oui, ces partis-là vont vouloir une recolonisation de Gaza. C'est pas tant que ça va arriver, c'est que ça va représenter un obstacle majeur.
OK, je veux vous entendre sur une théorie qui circule dans cette région du monde, là, selon laquelle les Égyptiens accueilleraient les Gazaouis en échange de garanties touchant la dette égyptienne. Est-ce que c'est un scénario crédible pour vous ou c'est une théorie du complot?
Non, c'est pas un scénario crédible. Il faut bien comprendre que la situation du point de vue de l'Égypte est extrêmement compliquée. Premièrement, l'Égypte au niveau domestique, donc indépendamment de ce qui se passe à Gaza, est dans une position très difficile. Le gouvernement égyptien est extrêmement autoritaire, extrêmement violent, extrêmement corrompu, très impopulaire. La situation économique en Égypte est désastreuse. La dette, le chômage, la pauvreté, etc. Et ça, indépendamment de tout ce qui se passe à Gaza, c'est une situation qui, pour moi, est extrêmement inquiétante là, à moyen ou long terme. Du point de vue de Gaza, l'Égypte a très peur. Malgré sa paix froide, là, donc les relations pas particulièrement chaleureuses, mais il y a une paix entre Israël et l'Égypte, l'Égypte a très peur que Israël pousse la population de Gaza de force vers l'Égypte, vers la péninsule du Sinaï, là, qui est la grosse région de l'Égypte qui touche à la bande de Gaza. Du point de vue de l'Égypte, on a dit extrêmement clairement à Israël, aux États-Unis, à quiconque veut l'entendre, qu'il n'en est pas question. L'Égypte ne veut pas parce que ça serait extraordinairement déstabilisant pour l'Égypte. On parlerait de 2 millions de réfugiés dans une situation extrêmement déstabilisante, des réfugiés dans lesquels il y aurait évidemment beaucoup de membres du Hamas encore. Mais aussi, si ça arrivait, ça serait la fin de la possibilité d'un État palestinien. Et ça, l'Égypte, évidemment, par principe, ne veut absolument rien savoir. Alors, il y a cette idée-là qui circule qu'il y aurait cette espèce d'aide économique massive à l'Égypte en échange de la prise en charge de la population de Gaza, mais en pratique, il n'y en est pas question.
Là, expliquez-moi comme si j'avais 14 ans là, puis je commençais à m'intéresser aux affaires internationales. Là. Comment ça se fait que les démocraties occidentales condamnent les massacres de populations civiles en Israël sans aucune réserve? Quand ça arrive à Gaza, on est un petit peu plus timoré.
C'est une bonne question, ça. Puis c'est pas facile d'y répondre. Premièrement, la situation varie quand même un peu de pays en pays. Les États-Unis, historiquement, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de politique domestique, sont très, très proches d'Israël et refusent de faire autre chose que des condamnations très timides, mais des actions concrètes pour contraindre Israël, il n'y en est pas question du point de vue des États-Unis. Du côté des pays européens, ça varie un peu. Il y a certains pays comme l'Allemagne, pour des raisons historiques, évidemment, le souvenir encore très présent de la Deuxième Guerre mondiale, mondiale de l'Holocauste, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de difficultés à critiquer Israël. D'autres pays européens vont prendre des positions un peu différentes, ça, qui varient quand même un peu. Le résultat, dans chaque cas, c'est que même si il y a de plus en plus de difficultés, il y a de plus en plus de problèmes dans tous ces pays-là face à ce qu'Israël fait. On comprend que la situation ne va qu'empirer, que tant qu'il n'y a pas de solution à deux États, il n'y aura pas de stabilité, que ça a un impact sur les Palestiniens, mais sur tout le monde. Mais il y a énormément de difficultés à s'entendre puis à bouger pour mettre la pression sur Israël, mais aussi sur les Palestiniens. Il ne faut pas oublier ce côté-là non plus. L'autorité palestinienne, le Hamas, pour bouger vers une solution. Alors, on est dans une espèce de statu quo qui est insupportable pour les Palestiniens, mais aussi pour Israël. Tout le monde en souffre, mais on est incapable d'aller de l'avant.
OK. Thomas, vous êtes un spécialiste de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais vous êtes aussi un spécialiste en sécurité nationale canadienne. J'ai envie de vous demander, le spécialiste en sécurité nationale canadienne que vous êtes, pense quoi de ce que ça va représenter pour le Canada d'un possible président Trump?
Oh, ça, c'est une question extrêmement importante. Je trouve qu'on en parle de plus en plus au Canada de la possibilité d'une victoire du président Trump. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on y pense, parce que ça aurait un impact majeur sur le Canada. Notre prospérité au Canada dépend de notre relation commerciale avec les États-Unis, 75% de notre commerce international. Notre sécurité dépend de notre relation avec les États-Unis, tous les accords qu'on a en matière de défense, de sécurité, de renseignement, etc. Le président Trump menace sérieusement de chambarder complètement tous ces arrangements-là qui nous bénéficient. Puis ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment insister. On critique les États-Unis au Canada. C'est un sport national. C'est un passe-temps national. Les États-Unis font beaucoup de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais le fait est, et ça, c'est indéniable, qu'on bénéficie énormément de cette relation-là. Si le président Trump arrive et impose des tarifs au Canada et aux autres, si le président Trump menace de quitter l'OTAN, si le président Trump menace d'autres arrangements de sécurité avec le Canada, on va souffrir et on va souffrir énormément. On ne parle pas de la chicane sur le bois d'œuvre qu'on a vu depuis quelques années qui a fait mal à un secteur spécifique de l'économie canadienne. Beaucoup de gens vont dire « Oui, mais on a survécu à la première présidence de Trump, on va survivre à la deuxième. » Et ça, ça ne marche pas comme argument, parce que la deuxième présidence de Trump va être beaucoup plus brutale que la première. Et ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit.
OK. Dernière question là-dessus. Est-ce que la relation canado-américaine sous Trump serait meilleure si Justin Trudeau n'était pas premier ministre du Canada? Parce qu'on sait que M. Trump n'aime pas M. Trudeau.
C'est une bonne question, ça. Puis il y a différentes façons de regarder ça. Il y a un argument, il y a une perspective pour répondre à cette question-là qui dit effectivement, le souvenir de M. Trump à l'endroit de M. Trudeau est très négatif. Il n'aimait pas du tout M. Trudeau et ça pourrait empirer la situation. Est-ce qu'un premier ministre poilièvre pourrait être dans une meilleure position étant donné sa personnalité, non seulement dans un sens très individuel, mais aussi son idéologie conservatrice, qui pourrait développer un rapport personnel avec Trump qui pourrait protéger le Canada, c'est possible. Et je pense qu'on peut pas, du tout exclure ça. Le contre-argument à ça, par contre, c'est que en bout de ligne, M. Trump, c'est M. Trump. Ça lui est assez égal avec qui il fait affaire. Et c'est sa volonté d'imposer des tarifs, par exemple, sur le commerce avec le Canada. Un premier ministre poilièvre serait pas capable de gérer ça tellement mieux qu'un premier ministre Trudeau. Et ça aussi, ça se défend comme perspective.
Toujours intéressant. Merci d'avoir été avec nous, Thomas. Bonne journée.
Merci à vous.
Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.